Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, Sébastien de Courtois. Ce matin, au micro de Chrétien d'Orient, je suis en compagnie d'Alain Desrumaux, spécialiste du monde syriaque, avec qui nous allons évoquer l'une des figures tutélaires de l'histoire intellectuelle syriaque. Peut-être même syriaque oriental, nous verrons la différence tout à l'heure. Je veux parler de Narsaï, l'un des principaux théologiens, aussi poète, chrétien, le docteur admirable, disent les églises dans leur propre tradition. Alors si nous allons essayer de mieux connaître cet écrivain et poète hors norme, je dois dire méconnu du grand public, c'est aussi le regard de l'historien que je convoque ce matin, et ce double regard que l'on peut avoir entre cette voix venue des âges et votre regard contemporain sur ces textes par rapport à l'oubli, par rapport au devoir de s'intéresser à ce patrimoine. Alain Desrumaux, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Alors Narsaï, en quelques mots, expliquez-nous.
Narsaï, c'est, on n'en parle peut-être pas assez. Et puis c'est bien qu'on en parle maintenant à l'occasion justement de l'exposition sur les chrétiens d'Orient où il y a des grandes figures. Tout le monde connaît Ephrem, on en a parlé, etc. Mais Narsaï est un personnage intéressant. Parce qu'il a participé aux controverses qui se sont prolongées, des controverses anciennes dans le monde syriaque qui remontent à 300 ans avant lui et qui se sont poursuivies. Alors je veux dire, voilà, c'est un monsieur il a été moine, et il a eu des fonctions importantes, des fonctions intellectuelles. Il a été recteur. Je vais le préciser. Bon, pour dire, certains pensent, ces biographes syriaques postérieurs du Moyen Âge l'ont fait naître vers 399 et mourir autour de 500, ce qui fait quand même un âge respectable. Donc bon, on peut discuter les dates et il faut toujours les discuter. Les historiens servent à ça. Bon, très bien, peut-être. En tout cas, il est né dans un endroit dont on parle beaucoup. C'est l'actuel territoire autonome du Kurdistan.
Le nord de l'Irak, cette région charnière.
Région charnière que vous connaissez bien puisque vous y êtes allé. C'est Al-Kosh, au nord d'Al-Kosh, c'est plus exactement près de Dohuk. Exactement son village, d'après les biographes, s'appelait Ain Doulbé. Ain Doulbé, ça veut, en syriaque, ça veut dire la source des platanes. Bon, les platanes comme on les connaît en Orient, hein, c'est pas tout à fait les platanes de nos routes de France, mais bon. Il a été recteur de l'école des Perses à Édesse.
Alors Édesse, il faut préciser un petit peu où est-ce que nous sommes en géographie. On n'est pas très loin non plus.
On n'est pas très loin, mais enfin quand même, il y a une distance. C'est Urfa actuellement, Şanlıurfa, en Turquie de l'Est. C'est là où on pourrait dire qu'est né le christianisme syriaque. On a d'ailleurs maintenant des traces réelles, même matérielles, d'un enracinement chrétien, dans un lieu, Édesse, qui était intermédiaire, même peut-être presque mixte entre le monde romain et le monde persan.
Mais disons-le franchement, Alain Desrumaux, à Édesse, le roi Abgar est peut-être le premier roi chrétien. Ça ne va pas faire plaisir à nos amis du Caucase arménien. Mais pouvons-nous le dire?
On peut le dire, oui. On peut le dire.
Donc nous sommes en haute Mésopotamie, plus sérieusement. Donc à ces frontières entre l'Irak, la Syrie et la Turquie d'aujourd'hui, cette école des Perses qui montre déjà peut-être une influence, une rencontre de ces mondes si différents.
Oui, il était à l'école des Perses à Édesse, il était le tenant d'une, le promoteur, on pourrait dire même, d'une théologie, bon, qui a été qualifiée de nestorienne. On évite maintenant de dire ça parce que, et, en tout cas, c'était la théologie de Théodore de Mopsuest, qui était le grand exégète, le modèle de la lecture des Écritures dans cette tradition-là. Qui, bon, qu'on a qualifié de théologie diophysite, c'est-à-dire de qui défend les deux natures du Christ, mais bon, je développe pas parce que là on en aurait pour des heures, mais et qui a créé des problèmes pour savoir comment elles étaient relatives l'une à l'autre et comment elles étaient unies. Bon,
nous referons une émission ensemble sur la question des natures du Christ.
Alors là, si on y arrive, parce que pour être simple, et bon, il faudrait des gens peut-être plus compétents que moi, sans doute.
Revenons à Narsaï.
Alors pour Narsaï, donc en 457, justement qualifiés de nestoriens, ils sont expulsés. Professeurs et élèves sont expulsés de l'école d'Édesse et ils vont à Nisib. Et avec l'évêque Barsoma, qui, par ailleurs, on pourra en reparler un autre jour, Barsoma était un personnage très rigide, qui a créé beaucoup de problèmes. Mais en tout cas, qui a fondé, sans doute, les premiers statuts de ce qu'on appelait l'école de Nisib. Donc, vous voyez, on est en Haute Mésopotamie, fameuse école d'Édesse et de Nisib, qui sont, au fond, les deux grandes universités chrétiennes du début du christianisme syriaque. Barsoma a été celui qui a été le promoteur du mariage des prêtres, accepté par le patriarche. Bon.
Mentionnons tout de même saint Éphrem, qui est peut-être plus connu, mais oui. qui est largement antérieur, qui est du 4e siècle, oui. Mais c'est la même région, c'est la même langue, c'est la même matrice.
Tout à fait. Merci de le souligner parce que c'est capital. Et d'ailleurs, Narsaï se retrouve avec Éphrem, avec Jacques de Sarrougue, avec Philoxène de Mabougue, qui sont encore des tendances différentes, hein, rappelons-le. Et puis des périodes différentes, mais ils se retrouvent aussi tous dans les liturgies syriaques. Donc même des liturgies qui soient plutôt miaphysites, eh bien on trouve des textes de Narsaï. Bon, moi il y en a peut-être pas beaucoup, mais en tout cas ils fondent une école à Nisib et il est vraiment il est exégète, il est professeur, il est théologien. Alors, il serait mort vers 502. Bon, mais en tout cas, il a été très vite appelé la harpe du Saint-Esprit. Bon, pourquoi ? Parce que c'est un professeur théologien et poète. Il s'exprime en poésie. Il s'exprime dans ce qu'on appelle les mimrées, qui sont des sortes d'homélies, et des madrochées. Qui sont des grands poèmes, souvent découpés en strophes avec un refrain. Je crois que c'est même la règle pour un madrochet. Et puis ce qu'on appelle aussi des soggiata, c'est-à-dire des dialogues. Des dialogues où on fait dialoguer des personnages. Hein.
Dans la tradition philosophique grecque ?
Pas tout à fait, parce que c'est des dialogues, c'est au fond des dialogues de théâtre, au sens très noble du terme, des dialogues de mise en scène. Par exemple, un des plus célèbres qui a été d'ailleurs très bien traduit en français par le père Graffin dans la revue L'Orient Syrien, et qui est dans la mémoire de tous les lecteurs du syriaque, c'est le dialogue entre le bon larron et l'ange qui arrive, le bon larron arrivant au paradis. C'est un dialogue merveilleux, enfin, où ils échangent parce que l'ange empêche le larron de rentrer, c'est un voleur. Le larron lui explique que lui, il a reçu la promesse de Jésus d'être le premier, donc il se présente même avant que Jésus descende aux enfers. Bon, enfin bref. Alors, il a écrit à usage liturgique, environ 360 pièces, enfin, qui sont parfois longues. Et dans lesquelles on décèle une théologie qui, effectivement, fait partie des problèmes qu'on trouve dans le monde syriaque depuis le concile de Chalcédoine et puis le concile d'Éphèse plutôt avant plutôt 431 et qui discute des natures. Alors pour lui, il y a, bon, je résume. Hein,
les natures.
Alors le problème des natures du Christ, le Christ en deux natures, non, dans une vous. Seule personne, dans le terme grec prosopon. Bon, un Christ qui est divino-humain, indivisible. Et en lui, le Verbe de Dieu et l'homme sont unis par l'amour. Voyez, on cherche. Il cherche des formules qui rendent compte de ça. Et il y a de très grosses discussions sur la volonté, sur l'âme, le corps. Est-ce que le corps appartient à l'homme et l'âme à Dieu? Et non, il faut chercher une vraie personne indivisible. Donc c'est ce genre de questions qui a beaucoup marqué, pas seulement les Syriaques. Hein, c'est une question qui a été discutée en grec, qui a passionné toute la Syrie. C'est Alexandrie, Antioche. On peut penser que c'est à cause de ces formules qui ne correspondent pas exactement aux formules conciliaires que Narsa y a été taxé de nestorien.
Pour avoir proposé des formules qui n'étaient pas de même forme, disons, que c'est le concile de Chalcédoine.
Voilà.
D'accord. De Chalcédoine. Donc il est expulsé.
Il a poursuivi son travail à Nisib. Comme à l'école des Perses, hein, en tant que recteur, que directeur. Il a élaboré en poésie, là j'en ai un exemple, on en a plusieurs exemples, je vais le prendre dans un livre qui a été fait en 1984 par le père Emmanuel Patak Seman, qui est un dominicain qui vit à Paris, un dominicain irakien qui a fait une traduction de cinq mimrés, cinq homélies qui sont longues. Hein. Alors je ne vais pas vous les lire en entier, c'est épouvantable. C'est pas épouvantable, c'est merveilleux. Mais par exemple, celle-ci, elle fait 339 lignes. 339 vers. Bon, ben on va regarder. Alors, il a fait des paraboles sur les vierges sages, un commentaire poétique sur les vierges sages et les vierges folles, et sur celle que je vais vous lire, la parabole du bon grain et de l'ivraie. C'est une parabole que dit Jésus, et le bon grain tombe sur différentes qualités de sol, de terre, et il y a toute une partie qui tombe vraiment à côté, qui ne fructifie pas, et puis il y a celle qui tombe sur le bon sol et qui fructifie, qui porte du fruit. Donc c'est une parabole pour dire, je résume grossièrement, pour dire que selon la disposition des cœurs et des consciences et des pratiques que l'on a, la parole de Dieu, qui est celle de Jésus, porte du fruit ou au contraire, ça sèche. Et alors, bon, il commence comme ça. Le Christ avait nommé bon grain la parole de son enseignement. Il appela la doctrine du rusé, le rusé, c'est le Satan, le diable, l'ivraie qui poussa avec lui, l'ivraie, la mauvaise herbe. Il compara le monde au champ et se nomma lui-même maître de la maison. Il désigna son enseignement par le bon grain que la terre de l'âme reçut. Celui qui sema de l'ivraie, c'est l'ennemi de notre nature. Et là, on sent déjà, c'est des concepts philosophiques. Parce que la nature, ça ne va pas de soi. Qu'est-ce que c'est la nature humaine? Et qui est l'ennemi de notre nature? Et il faut savoir qu'il y a eu des doctrines. On va y venir si on a une minute pour aller plus loin dans son mimo. Est-ce que la nature relève de la corruption? Est-ce qu'elle a été créée bonne et elle a été détruite? Est-ce que le diable a influencé? Et puis on va voir bientôt qu'il y a des gens qui ont justement qualifié cette nature de mauvaise d'une façon qui n'est pas du tout chrétienne.
Nous sommes avec Alain Desrumaux ce matin au micro de Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois et nous évoquons la figure de ce théologien syriaque des premiers siècles du christianisme, Narsaï. Voilà, alors je vous laisse continuer cette lecture, Alain Desrumaux.
Alors, c'est très intéressant moi j'ai été très intéressé de voir qu'il est conscient qu'il y a un débat. Il y a un débat parce que vous imaginez, il y a le blé et puis il y a la mauvaise herbe. Alors il faut les situer l'un par rapport à l'autre et il faut voir ce qu'on peut en faire, savoir est-ce qu'il est possible que le bon grain gagne et que l'ivraie ou bien est-ce qu'on peut arracher l'ivraie. Alors les serviteurs sont les justes qui virent l'ivraie parmi le blé. Ils demandèrent à leur maître, « N'est-ce pas du bon grain que tu as répandu ?» Le maître, lui, le connaisseur des secrets, répondit au serviteur, « C'est l'ennemi qui a fait cela pour corrompre le grain de mon enseignement. » Les serviteurs s'enflammèrent de zèle et dirent au maître très bon, « Nous allons ramasser l'ivraie pour qu'elle ne trouble pas la croissance du blé. » Alors, le doux maître dit aux serviteurs zélés, laissez-les croître ensemble jusqu'à la fin, de peur que vous n'arrachiez le blé avec l'ivraie amère. Et là, on sent que Narsaï se pose la question, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire et dans quelle situation on se trouve? Est-ce qu'on va pouvoir apprécier la possibilité? Et voilà, il dit, il signifiait par là les changements possibles au cas où elle se détournerait du mal. Autrement dit, est-ce qu'il y a possibilité de conversion? Quelle est la politique au fond à adopter par rapport à la présence de la mauvaise herbe à côté du bon grain? Et évidemment, Il résout pas forcément la question dans le sens la plus, progressiste qu'on pourrait qualifier. Il va nous acheminer. Je vais y venir sur la quand même une forme de conservatisme parce que il dit il y a eu des possibilités de conversion. Alors ça c'est bien. Moi ça m'a beaucoup plu. Par exemple, il prend comme exemple que Zachée, le publicain, était de l'ivraie qui amassait le butin des autres. Et volontairement, il devint blé. Il se convertit et il sema des aumônes. Donc c'est possible. Voilà, le bien peut gagner. Ivraie était le larron, celui dont on a parlé tout à l'heure là, à propos d'un autre texte. Ivraie était le larron, et il avait grandi par le sang des gens. Et parce qu'il vit une merveille sur la croix, il se mêla au blé.
Alain Desrumaux, vous êtes historien. Que veut dire pour vous ces textes? Que nous apporte-t-il? Là, on a été plongé dans la pensée de ce théologien Narsaï. Quel est votre regard d'historien? Lire et relire, ne pas oublier finalement.
Vraiment, c'est une question importante, d'autant plus dans le climat actuel. Comme historien, par exemple, je trouve dans ces textes, il parle de Marcion. Il donne des exemples justement de cette mauvaise graine qui est venue à l'intérieur du christianisme. Bon, Marcion, faut être rapide, c'est Rome 144, très bien, qui casse les relations entre Ancien Testament et Nouveau Testament. Il prend l'exemple de Mani. Alors évidemment, Mani, c'est important parce que Mani, bon, vous voyez qu'il est mort en 276, Mani qui a fricoté avec l'empereur perse, Shapur, Sapor premier, qui était conseiller de l'empereur. Bon, Mani, j'explique pas, faudrait interroger des spécialistes du manichéisme. Bon, mais enfin, qui a fondé une église, qui a eu tellement de succès que même Augustin a été était manichéen. Bon, il prend l'exemple de Bardezane qui a été un grand penseur d'Édesse et qui, Ephrem le réprouve parce que il a, semble-t-il, dévié à cause de son idée sur le destin et tout ça. Alors, c'est quand même formidable qu'on a un théologien qui, ici, Narsaï, enfin, Bardezane, c'est autour de 200.
Donc on est vraiment dans ces prémices du débat intellectuel du monde chrétien syriaque.
Et voilà, en autour de 400, mettons 80, j'en sais rien, mais Narsaï, il débat sur des philosophes et des hérétiques, alors ceux qu'il appelle les hérétiques, qui ont marqué les débuts du christianisme, le deuxième siècle.
Vous êtes ému quand vous lisez ces textes?
Oui, c'est très émouvant, parce que d'abord il nous donne des informations, et on sent qu'il débat là-dessus. Et il donne, par exemple, il dit au sujet de Bardezane, il voulut, c'est un dialecticien qui fut contre ses compagnons, qui vira, rejeta sa doctrine, il visa à scruter toutes les choses, il introduisit des êtres multiples. Bon, je commande pas, c'est des conceptions philosophiques, mais ça veut dire que il est accusé d'avoir fait dans l'astrologie, d'avoir donné des idées sur ceux qui règlent les astres et le destin des hommes d'une façon fausse. Donc, l'historien, il retrouve tout cela derrière. J'entendais récemment parler de l'oubli de ce qui s'est passé en Irak et en Syrie. C'est-à-dire la volonté d'éradiquer complètement non seulement les hommes, les personnes parce qu'ils sont chrétiens, mais ou musulmans et qui ne plaisent pas aux autres, mais d'éradiquer complètement leur tradition. Et je pense que l'historien est toujours concerné par cette recherche qui s'approprie, qui continue à s'approprier la grande tradition de ce qui est aujourd'hui d'ailleurs les hommes de notre temps.
Alain Desrumeaux, merci.
Merci à vous.
Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Philippe Bredin pour la réalisation de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Bonne journée.